Nous sommes heureux de pouvoir nous rassembler, de pouvoir entendre la parole et d'être bénis. Ce qui me tient en fait à cœur, c'est que nous cherchions et trouvions ensemble la communion avec Dieu. Vous savez bien qu'on peut écouter la parole et être béni par elle, mais cette communion personnelle avec le Seigneur, que peut-être, en parlant de moi, que peut-être nous avons eu autrefois plus intimement que nous l'avons aujourd'hui, de sorte que nous ne fassions pas qu'écouter, comme cela vient d'être dit, mais que nous expérimentions réellement que Dieu accomplit ses promesses, comme nous l'avons entendu dans la parole du prophète Ésaïe, que Dieu peut nous faire du bien selon sa promesse en l'accomplissant. Oui, c'est une parole merveilleuse. En ce qui concerne la situation extérieure en ce moment, il semble en effet que la guerre puisse éclater d'un moment à l'autre là-bas. Et nous pensons particulièrement à Israël. Nous l'avons dit ici assez souvent. Israël nous est plus proche que notre propre pays, que notre propre peuple, parce que nous appartenons au peuple de Dieu et le lien que Dieu crée dépasse de loin les frontières nationales et unit intimement dans l'amour divin. Ainsi que le Seigneur soit en effet particulièrement proche de son peuple Israël dans ces heures, dans ces jours, qu'il fasse grâce et que ce qui est juste arrive au bon moment. Là aussi, on pourrait se demander pourquoi. Pourquoi tant de détresse et de souffrance doivent venir sur la terre entière et même sur le peuple d'Israël, le peuple élu. Lorsque nous pensons aux millions qui ont péri de la pire manière dans la Seconde Guerre mondiale ou durant le Troisième Reich. Alors cet Américain d'origine allemande dont le frère Branham parlait autrefois lorsqu'il disait « Où était Dieu lorsque tous ces martyrs sont morts pour lui » avait-il croisé les bras? Regardait-il « Où était Dieu ?» Mais nous ne comprendrons jamais complètement les voies de Dieu sur terre. Heureux l'homme qui peut dire oui, et nous avons lu ensemble ici dans Ésaïe, au chapitre 38, verset 17. Ésaïe 38, verset 17. Voici, mes souffrances sont devenues mon salut. On ne le voit pas toujours immédiatement, mais cela produit pourtant un fruit paisible de justice. Et Dieu sait exactement ce qu'il permet et ce qui nous est utile. Et il est écrit dans la suite du verset 17, Ésaïe 38, « Car tu as jeté derrière toi mes péchés. » J'ai récemment fait deux visites en prison les dernières semaines et j'ai dû réfléchir à la manière dont les serviteurs de Dieu et les hommes de Dieu ont dû eux aussi passer par des chemins profonds. Lorsque j'ai lu aujourd'hui que Joseph a passé 2 ans en prison seulement parce qu'une femme l'avait accusé d'avoir voulu abuser d'elle, alors que c'était l'inverse. Elle voulait se servir de lui, mais elle a pris son vêtement et elle a dit ensuite, voici le vêtement, la preuve est entre mes mains. Et l'homme a été jeté en prison et il est assis. Et celui à qui il avait donné une bonne interprétation lui avait promis de se souvenir de lui et l'a oublié. Plus tard, il oublia complètement et voilà, les 2 années furent accomplies. Et ce Joseph, trahi par ses frères, vendu, jeté dans la fosse, eux qui avaient menti et trompé leur père, avaient trempé un vêtement dans le sang et avaient dit, une bête sauvage l'a déchiré. Et Joseph leur dit plus tard, ne soyez pas affligés et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Genèse 45, verset 5. Oui, nous aurions sans doute dit, bon, maintenant nous allons d'abord nous secouer un peu et vous remettre les idées en place. Non, Dieu agit ainsi avec son peuple et nous ne pouvons vraiment pas demander tout cela devrait-il arriver, tout cela devrait-il arriver. Nous ne pouvons pas poser cette question. Alors, heureux l'homme qui peut remercier Dieu. Je me suis moi-même demandé ce soir, vous connaissez aussi cette histoire d'impôts ici, lorsque je pense à toutes les heures et les jours que j'ai traversés avec les avocats et ainsi de suite, et combien cela fait souffrir et épuise intérieurement. Personne ne peut l'imaginer parce que je suis celui qui se tient toujours au milieu comme cible partout. Et il faut simplement dire que les épreuves que Dieu permet servent à notre bien. Et moi, je vous le dis très honnêtement. Une fois, j'en suis arrivé au point où j'ai dit au Seigneur, tu devrais en fait punir cet homme qui est dans l'injustice et qui voulait et veut nous faire tort. C'est ce que je me dis au Seigneur. Et je suis allé encore un peu plus loin dans une heure très sombre de ma vie. Et j'ai dit, si tu ne le fais pas, alors moi je vais le faire. Vous savez que nous sommes tous uniquement simplement des hommes. Mais ensuite, la grâce de Dieu est venue sur moi. Alors, j'ai pu prier. Réellement, prier de tout cœur. Et je voudrais déjà, maintenant, vous demander de prier pour moi lorsque cette réunion aura lieu le 25 janvier avec ces gens-là. Priez pour moi afin que Dieu me fasse beaucoup de grâce. Je dis cela simplement parce que je pense que Dieu doit être glorifié à travers tout cela. Et qui l'a lu? C'est Frère Schmitt qui vient justement de le lire. On vous livrera au tribunal et ainsi de suite. Matthieu 10, verset 8. Et je pense que, quelle qu'en soit la raison, cette pensée m'est venue à cœur, que Dieu transformera tout en bien. Peut-être ce sont les gens qui autrement n'auraient jamais entendu la parole et maintenant Dieu cherche un moyen pour qu'ils puissent simplement l'entendre. Il ne se passe donc absolument rien sans la volonté de Dieu et surtout lorsque nous faisons ce qui est juste. Alors, il ne peut de toute façon pas nous arriver quelque chose. Simplement, comme je l'ai dit, la vie peut être un peu rendue difficile. Mais au verset 15 du chapitre 38 d'Ésaïe, c'est vraiment précieux. Verset 15, Ésaïe 38. Que dirais-je maintenant qu'il m'a parlé et qu'il a agi? Là, il ne reste vraiment pas grand-chose à dire, seulement beaucoup à remercier et louer le nom du Seigneur qui donne sa parole, accorde ses promesses, puis les accomplit et les réalise. Je pense que nous l'avons tous assez souvent expérimenté. Oui, cette pensée m'est aussi venue pendant que nous avons chanté le dernier cantique où il était question de la fidélité, que Dieu a gardé sa fidélité. Je me suis demandé plusieurs fois ces derniers jours ce que je voudrais souligner le plus dans l'éternité. Ce qui est devenu très grand pour moi sur la terre. On peut louer l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. On peut louer beaucoup de choses. Et à juste titre. Mais je dois dire très honnêtement, jusqu'à ce jour, la fidélité de Dieu est pour moi ce qu'il y a de plus précieux que tout. Dans combien de situations j'ai été? Dieu est fidèle, Dieu est fidèle, Dieu est fidèle et Dieu demeure fidèle. Et cette fidélité de Dieu, je veux la louer éternellement. Et il est dit aussi dans les Écritures, même quand nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle, car il ne peut pas se régner. 2 Timothée 2, verset 13. Il ne peut pas non plus nous régner, nous qui avons été engendrés et nés de lui. Nous sommes simplement devenus fils et filles de Dieu. Et il est dit dans la suite, la suite du verset 15, Ésaïe 38, « Je marcherai paisiblement durant toutes mes années, malgré l'amertume de mon âme. Il se peut réellement que notre âme soit dans l'amertume. Peut-être afin que nous ne devenions pas orgueilleux. En tout cas, nous pouvons marcher paisiblement et faire entièrement confiance au Seigneur, même lorsque notre âme est dans l'amertume. Nous croyons malgré l'amertume de notre âme que Dieu arrangera toutes choses pour la gloire de son saint nom. Nous ne connaissons pas Dieu autrement. Et il est dit dans la suite au verset 16, verset 38, Seigneur, c'est par ces choses qu'on vit et c'est par elles que réside toute la vie de mon esprit. Tu me rétabliras donc et tu me rendras la vie. Puis vient le verset suivant, le verset 17. Voici mes souffrances, même sont devenues mon salut. Comme je l'ai dit, nous ne comprenons pas beaucoup de choses. Et le Seigneur lui-même a dit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Jean 13, verset 7. Ainsi, les voies de Dieu peuvent nous être incompréhensibles. Il est écrit aussi que ses jugements sont insondables, que ses voies sont incompréhensibles. Romains 11, verset 33. Rendez grâce en toutes choses. Nous avons récemment traité cela ici. Et ce n'est pas facile. Nous voulons tous le reconnaître. Dieu doit y arriver. Mais nous voulons parvenir à pouvoir remercier Dieu dans toute situation. Encore la suite du verset 18. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ce ne sont pas ceux qui sont descendus dans la fosse qui espèrent en ta fidélité. Verset 19. Le vivant, c'est lui qui te loue comme moi aujourd'hui. Oui, c'est simplement une parole merveilleuse. Nous, en tant que ceux qui vivent avec Dieu, nous pouvons célébrer sa fidélité. Nous pouvons le louer, car Dieu est un Dieu des vivants et non un Dieu des morts. Alors, j'ai une parole à cœur que j'ai lue tout à l'heure. Peut-être je ne la trouverai pas directement. Mais en tout cas, ah oui. Exode chapitre 34. À partir du verset 6. Et le Seigneur passa devant lui et s'écria, le Seigneur Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Verset 7, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Verset 8. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Verset 9. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide. Pardonne nos iniquités et nos péchés et prends-nous pour ta possession. Nous l'avons tous expérimenté nous-mêmes et les uns avec les autres. En tant qu'être humain, Nous ne sommes pas aussi dociles envers le Seigneur que nous devrions l'être. Nous le savons tous. Mais ici, nous voulons tout de même prier ensemble comme l'homme de Dieu a prié. Verset 8. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Et il dit, verset 9. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous. Je crois que c'est aussi notre désir à nous tous. Que Dieu vienne au milieu de nous. Qu'il commence à agir. Qu'il commence à agir de manière audible, perceptible, expérimentable. Que nous expérimentions réellement les choses que nous proclamons et que nous ne faisons pas seulement que proclamer, mais que nous croyons et attestons aussi que Dieu a réconcilié avec lui-même l'humanité au travers de la croix de Golgotha et que l'abîme a été franchi, que Dieu a établi le pont et que le mur de séparation a été ôté et que nous avons maintenant communion avec Dieu. Qu'en est-il maintenant de cette communion avec Dieu de manière pratique dans notre vie de foi? Ça, c'est la question. Et ici, Moïse a prié que s'il avait trouvé grâce, que le Seigneur veuille marcher au milieu d'eux, que cela puisse être notre prière. Seigneur, si nous avons trouvé grâce devant toi, alors viens au milieu de nous, passe par nos rangs, marche parmi nous, confirme ta parole, sauve les perdus, guéris les malades, baptise du Saint-Esprit et de feu, accomplis tes promesses, fais quelque chose qui confirme ta présence au milieu de nous. Et ensuite au verset 9, il continue, il dit, pardonne nos iniquités et nos péchés et prends-nous pour ta possession. Nous ne pouvons pas dire plus que ça. Seigneur, pardonne-nous, mais que nous puissions rester ta propriété et marche au milieu de nous. Révèle-toi. Et voici le Seigneur a exaucé. Et il est écrit au verset 10, Exode 34, le Seigneur répondit, voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays, chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre du Seigneur. Et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Ça, c'est une promesse glorieuse. Et je crois que nous avons raison dans notre appréciation lorsque nous affirmons ou supposons et croyons que les plus grandes choses sont encore à venir, que le meilleur est encore à venir, que Dieu nous visitera encore une fois par grâce. Il pardonnera, il lavera dans son sang, dans le bain de l'eau de sa parole. Comme frère Schmitt l'a lu, il remplira du Saint-Esprit, équipera et sera avec nous. Le Seigneur répondit, c'est le verset 10. Et nous savons que la réponse qui fut donnée ici en parole s'est ensuite effectivement accomplie. Ce n'était pas seulement une confirmation ou une promesse, mais Dieu a tenu sa promesse. La prière était et a été exaucé. Et alors vint la réponse du Seigneur. Et il dit, verset 10, voici, je traite une alliance. Disons-nous aujourd'hui avec courage, les uns les autres. Le Seigneur a conclu avec nous l'alliance à Golgotha. Il a dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle. Il a donné le oui et l'amène pour toutes les promesses. Tout dépend donc désormais uniquement de notre foi. Il reprend le verset 10, Exode 34. Le Seigneur répondit, voici, je traite une alliance. Et dans cette conclusion de l'alliance avec le peuple d'Israël, Dieu s'est engagé contractuellement à être avec le peuple d'Israël. Qu'est-ce que Dieu a fait en Christ à Golgotha? Il a donné le oui et amen et l'amen, car en lui se trouve à la fois la promesse et son accomplissement. Il reprend encore le verset 10 et la suite. Voici, je traite une alliance, et parce que cette alliance fut conclue, il put continuer en disant, la suite du verset 10, « Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu sur toute la terre et chez aucune nation. » Je le crois. Je sais que nous ne sommes pas Paul, nous ne sommes pas Pierre, ni Moïse, ni Élie. Je le sais. Personne n'a besoin de me le dire. Mais je sais aussi que Dieu est Dieu. Et qu'il ne s'agit ni du faible, ni du fort, ni du grand, ni du petit, mais de la foi et des promesses que Dieu nous a accordées par grâce pour ces jours-ci. Et si ce sont réellement des promesses que nous croyons, alors nous aussi, nous vivrons le jour où, comme Ézéchias, nous pourrons dire, tu m'as fait des promesses et tu les as accomplies. Que dirais-je désormais? Ézéchiel 38, verset 15. Nous n'avons plus rien à dire, si ce n'est de louer, célébrer et remercier Dieu parce qu'il est fidèle et qu'il accomplit ses promesses. Mais cette parole est vraiment merveilleuse. Verset 10, Exode 34. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu sur toute la terre et chez aucune nation. Il y a encore cette parole dans l'évangile de Jean. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi et vous en ferez de plus grandes. Jean 14, verset 12. Oui, c'est écrit au pluriel. C'est pas adressé à un seul en disant les œuvres que je fais, toi, tu le feras aussi. Non. Non, nous pouvons le lire ensemble dans l'évangile de Jean. Cela est écrit au pluriel. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grande. Ainsi, en vérité, je vous le dis à vous, celui qui croit en moi, et nous réclamons croire en notre Seigneur d'une manière biblique et correcte. C'est pourquoi nous avons cette assurance envers le Seigneur qu'il accomplira chaque parole qu'il nous a promise. Retournons à cette parole ici dans Exode 34, verset 10. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu sur toute la terre et chez aucune nation. Tout le peuple au milieu duquel tu te trouves verra l'œuvre du Seigneur. Verra l'œuvre du Seigneur. Ils la verront. Ils en seront témoins. Ils le vivront. Tous ceux qui appartiennent au peuple de Dieu. Et tout le peuple au milieu duquel tu te trouves verra l'œuvre du Seigneur. Et ce que j'accomplirai par toi sera terrible. Oui, cette promesse est aussi simplement merveilleuse. Pas simplement ce que je ferai au milieu de vous, ou à Pharaon, ou ici, ou là, mais ce que je ferai par toi, par le peuple de Dieu, en nous, en moi et en toi. Il continue le verset 10. Car ce que j'accomplirai par toi sera terrible, ou merveilleux en allemand. Nous avons souvent chanté, Seigneur, tu as fait de grandes choses pour nous. ici. Et cela doit réellement devenir manifeste, que Dieu fasse de grandes choses pour nous et en nous. Comme je l'ai dit au début, je souhaite que nous obtenions tous une meilleure connexion avec Dieu, que nos prières soient exaucées, que Dieu puisse répondre, bénir, accomplir ses promesses. Et pour cela, nous voulons aujourd'hui chercher la face de Dieu dans une prière pleine de foi, lui demander réellement de marcher et d'agir au milieu de nous, dans notre vie, en nous, parmi son peuple, qu'il confirme sa parole et nous bénisse tous. Dieu ne peut pas faire autrement. Comme Moïse l'a dit, nous sommes un peuple au cou raide. Peut-être moi aussi, que savons-nous? Nous ne le remarquons même pas nous-mêmes. Nous le remarquons généralement seulement chez les autres. Mais chez nous-mêmes, nous ne le voyons pas si vite. Mais peut-être que les autres le voient en nous. Nous ne voulons faire de reproches ni à nous-mêmes ni aux autres. Mais une chose semble certaine. Nous avons tous le désir d'entrer dans la présence de Dieu afin qu'il puisse marcher et agir au milieu de nous comme il l'a promis. Et je crois que nous pouvons aussi le faire dans la foi. Et j'ai lu aujourd'hui une parole sur le jeûne dans le prophète Ésaïe, et cela pourrait aussi être recommandé. Et même à ce sujet, si nous avions le temps, aujourd'hui, nous ne le ferons pas, car aujourd'hui nous voulons prier. Mais même si nous en parlions, le jeûne lui-même ne sert à rien s'il n'est pas pratiqué dans la foi et d'une manière juste devant Dieu. On peut très bien le lire dans Ésaïe chapitre 58. Et je voudrais seulement lire un seul verset d'Ésaïe 58, verset 5. Ésaïe 58, verset 5. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courbe la tête comme un jonc, se couche sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable au Seigneur? Nous pourrions faire tout extérieurement. Nous pourrions même avoir un visage si long comme il est écrit, courber la tête comme un jonc. Nous pouvons même le faire, et que cela ne soit pas dit de manière méprisante, mais vous savez qu'il existe des courants pentecôtistes et mouvements de pluie de l'arrière-saison qui a son origine en Afrique du Sud, qui est aussi représenté en Allemagne et dans toute l'Europe. Eux, ils jeûnent dans des sacs de cendres. Et si je ne l'avais pas vu moi-même, je ne le croirais même pas. Mais ils ont un sac pour chacun et ils ont des cendres et un cendrier et des récipients comme une serpillière d'une taille un peu plus grande que celle d'une poudrière. Comme je l'ai dit, j'y étais, je l'ai vu. Alors, ils entrent dans le sac, on leur verse de la cendre dessus et ils jeûnent. Mais le Seigneur dit, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Courber la tête dans le jonc, se coucher sur un sac et se la cendre, appelles-tu cela un jeûne, un jour agréable au Seigneur? Bien-aimé, je vous dis la vérité selon la parole de Dieu, à moins que Dieu ne nous aide dans la prière, dans le jeûne et dans toutes ces choses, nous pouvons tout faire sans pour autant être agréable à Dieu. Mais nous avons le désir sincère, faire les choses de manière à être agréable à Dieu, que ce soit le jeûne, la prière, avec ou sans cendre. quoi qu'il en soit, la plupart ont fait des pénitences dans des sacs, dans des cendres. Je crois que ce fut le cas à Ninive. Mais Krefeld n'est pas Ninive. Chaque fois que nous lisons la Bible ici, cela s'est passé ainsi. Là-bas, autrement. Ici, de cette manière et là, d'une autre manière. Dieu ne copie absolument rien. Il veut seulement que nous soyons à sa disposition et que nous trouvons grâce devant lui, comme Moïse l'a dit, en toute chose. J'ai aussi réfléchi aujourd'hui au privilège que Dieu nous a accordé, comprendre réellement sa parole par révélation du Saint-Esprit. Je ne lis pas des livres entièrement, mais il m'arrive de jeter des coups d'œil dans des livres pour voir ce que d'autres disent et écrivent. Et justement, j'ai parcouru un livre presque entièrement. Il parlait de l'image. Oui, un homme écrit tout un livre sur l'image. Il veut parler de l'image d'Apocalypse. Mais il n'a pas en tête que la télévision. Selon lui, c'est cela l'image qui parle. Et si seulement cet homme avait correctement lu un seul passage, il est pourtant écrit qu'il s'agit de l'image de la bête. Il n'est pas seulement question d'une image, mais de l'image de la bête, Apocalypse 13, verset 15. Avant de savoir ce qu'est l'image de la bête, il faut savoir ce qu'est la bête. Voyez-vous combien la révélation est indispensable? Il voit une image, puis il écrit des dizaines et des centaines de pages de cette image, tout en passant complètement à côté du sujet, complètement à côté. Oui, je ne le dis pas maintenant pour mépriser quelqu'un. Je le dis seulement pour montrer quelle grâce Dieu nous a accordée afin que nous puissions nous reconnaître, ou bien que nous puissions aussi reconnaître le ministère de Frère Branham. Car autrement, nous ne connaîtrions pas toutes ces choses. N'est-ce pas? Et nous devons sans cesse nous le rappeler en ce lieu. Si Dieu n'avait pas eu un Paul, nous ignorerions beaucoup de choses. Et voulez-vous que je vous dise quelque chose? Paul est parti auprès du Seigneur. Certains disent qu'il a écrit sa dernière lettre en l'an 64, d'autres disent 68, et voici que Jean a écrit en l'an 96, environ 30 ans plus tard, des choses que Paul ne connaissait même pas encore et qu'il n'avait pas enseignées. Paul n'a rien dit du règne de 1000 ans, ni d'autres choses qui ont été révélées plus tard. Mais aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir réellement une vue d'ensemble complète. Et nous l'avons déjà dit ici plusieurs fois. Et si Dieu n'avait pas envoyé Frère Branham dans notre temps, aujourd'hui nous tâtonnerions dans les ténèbres comme tous les autres et nous suivrons avec eux les mêmes chemins avec beaucoup de fanfares, de trompettes et d'alléluia. Ainsi, grâce soit rendue à Dieu pour tous ses serviteurs et prophètes qu'il a envoyés au commencement et à la fin avec sa parole à son peuple. C'est pourquoi il est écrit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui vous écoute, m'écoute. Et par cela, nous ne glorifions aucun homme. Mais nous remercions Dieu d'avoir tenu sa parole, même dans notre temps, et d'avoir réellement envoyé quelqu'un qui ne s'est pas présenté lui-même, ni une doctrine, ni une domination, mais quelqu'un par qui Dieu pouvait parler et mettre la parole en lumière ou sur le chandelier par révélation. Maintenant, il nous reste une seule chose à faire. Avoir la même communion avec Dieu, la direction du Saint-Esprit et l'action surnaturelle de Dieu, comme cet homme l'a reçu par grâce. C'est ce dont nous avons besoin tous. Et je suis convaincu que le Seigneur nous l'accordera, car il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen.